Victor Hugo, La légende des siècles, première série, L'islam. 1. L'an 9 de l'Hégire. Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne un reproche. Il marchait en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il songeait longuement devant le saint pilier. Par moments, il faisait mettre une femme nue, et la regardait, puis il contemplait la nue, et disait « La beauté sur terre, au ciel le jour ». Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge d'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge, laissant l'un affirmer, l'autre rire et nier, écoutait en silence et parlait le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran, de sa main même écrit, puis il remit au fils de Séide la bannière en lui disant « Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combat pour lui !» Et son œil voilé d'ombre avait ce morne ennui d'un vieux aigle forcé d'abandonner son aire. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployant au vent, et là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule, « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écoule, la poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant. Sans Dieu, je serais vil plus que la bête immonde. » Un cheik lui dit, « Ô chef des vrais croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut. Le jour où tu naquis, une étoile apparut et 3 tours du palais de Khosès se tombèrent. » Lui reprit, sur ma mort, les anges délibèrent. L'heure arrive. Écoutez. Si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève, ô peuple, et devant tous qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. Et tranquille, il tendit aux passants son bâton, et une vieille, tournant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria, « Dieu t'assiste !» Il semblait regarder quelque vision triste, et songeait, tout à coup pensif, il dit, « Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah, je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite, je suis la force, enfant. » Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci. Je ne suis qu'un limon par les vices noircis. J'ai de tous les péchés subi l'approche étrange. Ma chair a plus d'affront qu'un chemin d'un de fange, et mon corps par le mal est tout déshonoré. Ô vous tous, je serai bien vite dévoré si dans l'obscurité du cercueil solitaire chaque faute de l'homme engendre un ver de terre. Fils, le damné renaît au fond du froid caveau, pour être par les vers dévoré de nouveau. Toujours sa chair revit jusqu'à ce que la peine finie ouvra son vol l'immensité sereine. Fils, je suis le champ vil des sublimes combats, tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas. Et le mal dans ma bouche avec le bien alterne, comme dans le désert, le sable et la citerne. Ce qui n'empêche pas que je n'aie, ô croyant, tenu tête dans l'ombre aux anges effrayants qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres. J'ai parfois, dans mes poings, tordu leurs bras funèbres. Souvent, comme Jacob, j'ai la nuit, pas à pas, lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas. Mais les hommes, surtout, ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie. Et comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité. Et pendant ce combat, je criais « Laissez faire, je suis seul, nu, sanglant, blessé. Je le préfère, qu'ils frappent sur moi tous, que tout leur soit permis. Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis auraient pour m'attaquer dans cette voie étroite, le soleil à leur gauche et la lune à leur droite, ils ne me feraient point reculer. C'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans, me voici arrivé sur le bord de la tombe profonde. Et j'ai devant moi Dieu, derrière moi le monde. Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuple, n'en doutez pas. Celui qui prodigua les lions au ravin du Jebel Kronega, les perles à la mer et les astres à l'ombre, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, « Croyez, veillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden d'avec l'abîme. Étant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime. Presque personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment. Tâchez, en priant, que vos corps touchent partout la terre. L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ce qui n'aura point touché la cendre, et Dieu, à qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu. Soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes. Les chevaux scellés d'or et pour fuir aux 7 cieux, les chars vivants ayant des foudres pour essieux. Chaque houerie, sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse. Le Géhennam attend les réprouvés, malheur. Ils auront des souliers de feu dont la chaleur fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. » Il s'arrêta, donnant audience à l'esprit. Puis poursuivant sa marche à pas lents, il reprit. « Ô vivant, je répète à tous que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure. Donc hâtez-vous. Il faut, le moment est venu, que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu et que, si j'ai des torts, me crachent au visage. » La foule s'écartait muette à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Aboul Feya. Un homme réclama 3 drachmes qu'il paya, disant « Mieux vaut payer ici que dans la tombe. » L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe. En regardant cet homme auguste, son appui, tous pleuraient. Quand plus tard il fut rentré chez lui, beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, « Abou Bekr, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. » Et sa femme Aïcha se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bekr lisait et souvent à voix basse achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir, à la porte apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, « Dieu désire ta présence. »« Bien, dit-il. » Un frisson sur ses tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut. 2. Mahomet. Le divin Mahomet enfourchait tour à tour son mulet d'idole et son âne Yafour. Car le sage lui-même a, selon l'occurrence, son jour d'entêtement et son jour d'ignorance. 3. Le cèdre. Omer, cheikh de l'islam et de la loi nouvelle, que Mahomet ajoute à ce qui s'en révèle, marchant puis s'arrêtant, et sur son long bâton par moments comme un pâtre appuyant son menton, errait près de Jeddah la sainte, sur la grève de la mer Rouge, où Dieu luit comme au fond d'un rêve, dans le désert jaunisse noir de l'ombre des cieux où Moïse voilé passait mystérieux. Tout en marchant ainsi, plein d'une grave idée, par-dessus le désert, l'Égypte et la Judée, à Patmos, au penchant d'un mont chauve, sommet, il vit Jean qui, couché sur le sable, dormait. Car Saint Jean n'est pas mort, l'effrayant solitaire, Dieu le tient en réserve, il reste sur la terre, ainsi qu'Enoch le juste, et comme il est écrit, ainsi qu'Élie, afin de vaincre l'Antéchrist. Jean dormait. Ses regards étaient fermés, qui virent les océans du songe où les astres chavirent. L'obscur sommeil couvait cet œil illuminé, le seul chez les vivants auquel il fut donné de regarder. Par l'âpre ouverture du gouffre, les anges noirs vêtus de cuirasses de soufre, et de voir les babels penchés, et les sillons tomber, et s'écouler les blêmes visions, et les religions rire prostituées, et des noms de baptême errer dans les nuées. Jean dormait, et sa tête était nue au soleil. Omer, le puissant prêtre, au prophète pareil, aperçut tout auprès de la mer Rouge, à l'ombre d'un santon, un vieux cèdre au grand feuillage sombre, croissant dans un rocher qui bordait le chemin. Cheikh Omer étendit à l'horizon sa main vers le nord habité par les aigles rapaces, et montrant au vieux cèdre, au-delà des espaces, la mer Égée et Jean endormi dans Patmos, il poussa du doigt l'arbre et prononça ces mots. « Va, cèdre, va couvrir de ton ombre cet homme. » Le blanc spectre de celle qui regarde Sodome n'est pas plus immobile au bord du lac amer que ne le fut le cèdre qui parlait Homère. Plus rétif que l'onagre à la voix de son maître, l'arbre n'agita pas une branche. Le prêtre dit « Va donc !» et frappa l'arbre de son bâton. Le cèdre, enraciné sous le mur du santon, n'eut pas même un frisson et demeura paisible. Le cheikh, alors, tourna ses yeux vers l'invisible, fit 3 pas, puis ouvrant sa droite et la levant. « Va » cria-t-il, « va, cèdre, au nom du Dieu vivant !» Que n'as-tu prononcé ce nom plus tôt ? Dit l'arbre. Et frissonnant, brisant le dur rocher de marbre, dressant ses bras ainsi qu'un vaisseau ses agrès, fendant la vieille terre aïeule des forêts, le grand cèdre, arrachant aux profondes crevasses son tronc et sa racine et ses ongles vivaces, s'envola comme un sombre et formidable oiseau. Il passa le mont Gour, posé comme un boisseau sur la rouge lueur des forgerons d'Érèbe, laissa derrière lui Gophna, Jéricho, Thèbes, l'Égypte aux dieux sans nombre, informe panthéon, le Nil, fleuve d'Éden, Kadan, Nomek, Géron, le champ de Galgala, plein de couteaux de pierre, Ur, d'où vint Abraham, Betsa, d'où naquit Pierre, et quittant le désert d'où sortent les fléaux, traversa Canaan d'Arphak à Bortéo. Là, retrouvant la mer, vaste, obscure, sublime, il plongea dans la nuit énorme de l'abîme, et franchissant les flots, sombre gouffre ennemi, vint s'abattre à Patmos, près de Jean endormi. Jean, s'étant éveillé, vit l'arbre, et le prophète songea, surpris d'avoir de l'ombre sur sa tête. Puis il dit, redoutable en sa sérénité, « Arbre, que fais-tu là? Pourquoi t'es-tu hâté de sourdre, de germer, de grandir dans une heure? Pourquoi donner de l'ombre au roc où je demeure? L'ordre éternel n'a point de ses rapidités. Jéhovah, dont les yeux s'ouvrent de tous côtés, veut que l'œuvre soit lente et que l'arbre se fonde sur un pied fort, scellé dans l'argile profonde. Pendant qu'un arbre naît, bien des hommes mourront. La pluie est sa servante, et par le bois du tronc, la racine aux rameaux frissonnants distribue l'eau qui se change en sève, aussitôt qu'elle est bue. Dieu le nourrit de terre, et l'en rassasiant veut que l'arbre soit dur, solide et patient, pour qu'il brave à travers sa rude carapace les coups de fouet du vent tumultueux qui passe, pour qu'il porte le temps comme l'âne son bas, et qu'on puisse compter, quand la hache là-bas, les ans de sa durée aux anneaux de sa sève. Un cèdre n'est pas fait pour croître comme un rêve. Ce que l'heure a construit, l'instant peut le briser. » Le cèdre répondit, « Jean, pourquoi m'accuser? Jean, si je suis ici, c'est par l'ordre d'un homme. » Et Jean, fauve songeur, qu'en frémissant ton homme, reprit, « Mais quel est cet homme à qui tout se soumet ?» L'arbre dit, « C'est Homère, prêtre de Mahomet. J'étais près de Jeddah depuis des ans sans nombre. Il m'a dit de venir te couvrir de mon ombre. » Alors Jean, oublié par Dieu chez les vivants, se tourna vers le sud et cria dans les vents par-dessus le rivage austère de son île, « Nouveau venu, laissez la nature tranquille !»